Nous étaient proposés trois textes pour ce dimanche du temps de la création. Nous en lirons une de ces trois dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 8, les versets 18 à 25. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que, maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quand on lit dans l'Épître aux Romains, on sait tout de suite que c'est quelque chose qui a été écrit et dicté à un secrétaire, mais il ne faut pas oublier que ce soit dans ce livre-ci ou dans un autre, dans la Bible, même dans ce passage que nous venons de lire, l'ensemble des Écritures ont été composées, transmises, d'abord et avant tout par la répétition, oralement, et par écrit ensuite, d'un certain nombre de paroles. Les expressions utilisées n'avaient pas toujours le même sens, elles n'entendaient pas toujours renvoyer exactement à la même chose, il ne faut pas en être surpris. C'est le génie du langage, qu'il soit oral ou écrit. Mais d'abord, ce sont des paroles qui ont circulé. Libérer à nouveau de son carcan écrit une parole qui a d'abord été prononcée, c'est se souvenir que la parole doit être une incitation à agir dès qu'elle a retenti. Et c'est aussi, peut-être, se méfier un peu de la fixité des textes dont nous sommes dans une civilisation du tout écrit, submergée jour après jour. Un sondage récent nous apprend que le temps de lecture des millions de courriels échangés par les salariés, tous secteurs confondus, peut représenter jusqu'au tiers de leur temps de travail. Jusqu'au, ça veut dire que c'est un maximum. Mais même si c'est 20%, 25% ou 25%, un cinquième ou un quart, c'est déjà considérable. Ceux qui, dans les entreprises, mesurent jour après jour la productivité des autres ont dû en faire une jaunisse. Vous vous rendez compte? C'est à ça qu'on les paie. Pour sortir de cet envahissement communicationnel, pour dire un gros mot, parce que de temps en temps ça soulage, il n'est pas inutile de rappeler qu'une parole remémorée, entendue, oubliée, puis qu'on ramène en la disant à son tour, a peut-être plus de chances d'être entendu qu'un texte dont nous savons qu'il peut être lui aussi tout aussi éphémère. Le dicton « la parole s'envole, les écrits restent » n'est vrai que quand l'écrit est rare et qu'il est destiné à fixer ce qui justement ne doit pas s'envoler. Mais quand l'écrit est pléthorique, quand il y a trop de textes, dans un monde où même les écrits s'envolent parce qu'on ne les lit plus, ce dicton n'est plus vrai. Dans le flot des discours et des textes qui nous submergent, il est peut-être bon de se demander si une parole décisive est encore possible, et si oui, si elle est audible dans le brouhaha ambiant. Entre les propagandes, les contre-propagandes, les argumentaires commerciaux, les discours idéologiques destinés à avoir raison plutôt qu'à être dans le vrai, pas facile d'écouter ou de discerner une parole décisive. Mais il est nécessaire aussi de comprendre que les mots que nous lisons dans la Bible n'ont jamais un sens unique, comme s'ils étaient plats. comme une feuille de papier. Il faut souvent plusieurs mots pour dire, non pas tout à fait la même chose, mais pour dire qu'une chose est importante à dire. Vous savez, on tourne autour du pot en cherchant des synonymes, des expressions qui redisent un petit peu la même chose. Et puis elle réclame aussi plusieurs générations pour laisser aux mots le temps de se dire. Et ça, nous n'avons pas forcément, dans une autre époque pressée, le temps d'attendre que les mots résonnent chez nous ou produisent tous leurs effets. Laisser aux mots le temps de faire leur effet à une époque où nous sommes en permanence connectés à quelque chose plutôt que d'être connectés à quelqu'un, ce n'est plus si évident que cela. Et puisque nous en sommes là, ou à peu près, la conséquence est que nos propres paroles deviennent inaudibles alors que notre monde, je cite à nouveau Paul, attend avec un ardent désir la révélation des enfants ou des fils de Dieu. Ou plus exactement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu tout entière, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quand Paul nous dit que la création entière gémit et souffre, il ne fait pas évidemment référence à nos préoccupations écologiques actuelles. Elles n'avaient pas lieu d'être au moment de la rédaction de cette lettre. C'est peut-être ça qui a le plus changé entre cette lettre, le moment où elle a été écrite, et le moment où nous la relisons. À l'époque, la planète allait à peu près bien, seuls nous avions besoin d'être aidés. Ce n'est plus le cas. Tout le monde est malade, tout le monde souffre et tout le monde gémit. Comme nous le raconte bien le livre des Actes, face aux immenses problèmes auxquels Paul faisait face, l'apôtre a su faire preuve de lucidité, de courage et d'espérance. C'est surtout ça qui l'a rendu convaincant. Le fond de ses propos et de ses lettres aussi, évidemment. Mais sa force de conviction avant tout, celle d'une parole qui dit avec conviction ce qu'elle a à dire. Il a fait preuve d'espérance en considérant la création entière pour l'associer à nous dans l'attente du salut. Et ça, c'était tout à fait nouveau, tout à fait inédit. Vous savez que le salut était traditionnellement lié à l'humanité. Encore une fois, il n'y a que nous qui étions malades, qui souffrions de quelque chose et qui avions besoin qu'on nous aide. Il était lié à l'humanité seulement. Le reste du cadre de vie ne semblait pas concerné, presque écarté du salut, comme s'il n'avait qu'une valeur transitoire. Il se peut que cette chose disparaisse, mais qu'importe pourvu que nous soyons sauvés. Faire se rejoindre l'homme et le monde qu'il porte dans une même aspiration au salut était certainement une idée religieuse assez nouvelle et sans doute pas acceptée par tout le monde à l'époque où Paul écrit ces lignes. Paul les a pourtant écrites, ces lignes, ces choses importantes, mais il l'a fait pour que cette lettre soit lue et suivie d'effet. Ces lettres étaient comme des circulaires qui devaient faire autorité et qui devaient être presque prêchées oralement, qui devaient être une parole de poids appliquée au moment où on l'écoute. D'abord et avant tout, une parole forte. L'espérance n'est jamais qu'une réponse de l'homme au silence de Dieu. Vous connaissez peut-être cette phrase, mais celui qui espère n'accepte pas la décision de Dieu de se taire. C'est pour ça qu'il va presque jusqu'à parler à sa place, ou le faire parler. On voit ça de nombreuses fois dans les psaumes, notamment. Il se bat, cet homme qui refuse le silence, pour que Dieu tienne ses promesses. Eh bien, en Christ, chacun de nous peut et doit faire preuve d'espérance en regardant le monde et en l'associant, comme Paul nous y invite, au salut que nous attendons et auquel nous travaillons. Aujourd'hui, si la création plus que jamais gémit et souffre, et comment ? C'est comme nous le savons parce qu'elle est enfermée dans notre propre logique. Et ça, Paul l'avait déjà pressenti. Ce n'est pas de sa faute à elle si elle est dans cet état. Surconsommation, surexploitation, démographie galopante, toutes ces choses qui peuvent nous perdre et la perdre avec nous. Nous avons donc une alternative entre une perdition commune ou un salut commun, mais pas séparément. C'est un peu le syndrome de l'île de Pâques étendu à l'ensemble de la planète. Nous n'avons pas construit de barque pour aller sur les îlots un peu plus loin. Nous avons mangé tout ce qu'il y avait de comestible sur l'île, il ne nous reste plus qu'à mourir. Si la création souffre et gémit, c'est parce qu'elle est aussi, et heureusement, Paul le dit à sa manière dans ces quelques lignes, travailler du dedans, travailler de l'intérieur par une poussée de vie, par quelque chose de la vie qui cherche à naître et à devenir autre, à se renouveler, mais pas seulement se renouveler. Il y a dans la création quelque chose qui refuse la mort qu'on lui promet, une sorte d'indignation peut-être. Comprenons bien que notre espérance n'est pas une idée en l'air ou une idée éthérée qui s'élève et qui s'envole comme certaines paroles ou certains écrits aussi. Elle ne se trouve pas dans un repli communautaire, dominical, où nous serions à l'abri, même si nous sentons la chaleur et la fraternité entre nous, tant mieux. Notre espérance se manifeste par un comportement relationnel, civique, individuel, mais aussi social, qui affirme la parole chrétienne de salut pour l'ensemble de la création. Cette idée religieuse était une idée nouvelle. Je pense qu'elle a gardé sa nouveauté pour ceux qui pourraient nous entendre. Si on observe les gesticulations des nations, notamment des plus puissantes, on remarque qu'elles n'ont pas ou qu'elles peinent à avoir une parole forte suivie d'effets pour associer le monde qui nous porte à une espérance pour le vivant. Ça n'est pas évident pour les puissances parce qu'elles sont peut-être trop occupées à garder la puissance dont elles disposent, ou comme les ex-empires, à récupérer celles qu'elles ont perdues avec la nostalgie et une colère qui détruisent beaucoup. Incontestablement, nous avons apporté à nos contemporains une raison de vivre qui, effectivement, les pousse à vivre, à chercher du vivant et pas seulement à survivre. Il nous revient d'annoncer une espérance qui ne soit pas une mystique désincarnée, une parole éthérée, si vous voulez, encore, et qui produirait une autre aliénation, qui transporterait notre espérance ailleurs, comme nous l'avons déjà fait longtemps, de nombreux siècles, sans se préoccuper du sol où nous posons nos pieds. Malgré les gémissements et les souffrances de la création, nous proclamons, nous, une espérance pour le vivant, pour l'ensemble du vivant, qui permettent de vivre lucidement, ici et maintenant, l'enfantement à l'amour et à la liberté comme révélation éternelle des fils de Dieu, puisque à un moment donné, il faut bien dire en quoi elle consiste. Eh bien, c'est en cela qu'elle consiste, et il semble bien que le monde, même s'il ne l'avoue pas, soit impatient d'entendre une aussi bonne nouvelle. Amen.